États-Unis. Jean-François Seznec, vous êtes économiste et également analyste politique et vous êtes au Atlantic Council. Et avec moi ici en studio, dans notre studio de Washington, Calvin Dark, chroniqueur, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Alors, Patrick Chevalereau, pour démarrer avec vous, le président Poutine menace d'user de tous les moyens à sa disposition, y compris nucléaire, pour arriver à ses fins. Il ordonne la mobilisation des réservistes. Comment est-ce qu'il faut interpréter toutes ces annonces?
Alors, il y a beaucoup de commentaires ont déjà été faits sur ces deux aspects de l'approche du président Poutine ces derniers temps. Je voudrais d'abord dire que l'incantation, la rhétorique de recours aux armes nucléaires, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose auquel on a déjà assisté dans les discours officiels russes depuis des années. Voilà. Donc ça fait complètement partie de la stratégie du Kremlin, qui est d'essayer d'affaiblir la volonté de ses adversaires en générant la peur et en essayant de fissurer l'unité des Occidentaux. Et l'unité des Occidentaux, c'est le centre de gravité de ceux que Poutine estime être ses adversaires. Ensuite, on peut douter l'intérêt que Poutine pourrait avoir dans l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Est-ce qu'il y a un intérêt tactique à ça? Est-ce qu'il y a un intérêt psychologique? Rien n'est moins sûr. Mais on observe depuis le début que Poutine est dans une espèce d'irrationalité, ou du moins de rationalité différente de la nôtre. Et puis, il y a un dernier élément, c'est l'épée de Damoclès que constituerait la réaction des Occidentaux. Il y a eu une réaffirmation par l'OTAN que cette organisation est une puissance nucléaire. Il s'agit là d'un message. Et puis j'observe que le National Security Advisor Jake Sullivan ce week-end a rappelé avoir passé un message au Kremlin et avoir averti le Kremlin de conséquences catastrophiques pour la Russie. Alors la mobilisation, pour moi, il y a deux lectures. Dans un premier, qui sont d'ailleurs compatibles les unes avec les autres. D'une part, Poutine cède aux injonctions des extrémistes nationalistes russes qui réclament cette mobilisation depuis des semaines. Donc ça révèle une difficulté intérieure en Russie pour Poutine. Et le deuxième élément, c'est que ça répond effectivement à des besoins militaires après les pertes qui ont été subies par les Russes et les revers territoriaux de ces dernières semaines. Voilà. Donc ces deux éléments sont suffisamment puissants pour que le Kremlin prenne le risque d'un effet boomerang, parce qu'effectivement, la société russe est secouée comme on l'a vu.
D'accord. Alors Jean-François Seznec, est-ce qu'il faut prendre ces menaces de Poutine au sérieux? S'agit-il pour lui de dire aux Occidentaux, États-Unis en tête, d'arrêter d'armer l'Ukraine?
Oui, certainement. Ces menaces sont sérieuses et bien sûr, je pense que je suis d'accord avec Patrick qu'il n'a pas vraiment l'intention d'utiliser les armes nucléaires s'il peut. Mais malheureusement, on est dans une démarche en ce moment qui ne fait que s'accélérer et il y a toujours un problème pour que ça devienne de pire en pire et d'utiliser les armes nucléaires tactiques qui sont quand même de la force de la bombe d'Hiroshima à l'origine. Donc je pense que effectivement il faut faire très attention à ce que Poutine fait et que il faut pas que on tombe dans le piège, bien sûr qu'il est en train de nous tendre, mais bien sûr le piège se refermerait sur lui aussi bien. Donc je pense qu'on va continuer à envoyer des armes importantes en Ukraine, de plus en plus fortes, et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça donne une excuse aux États-Unis pour intervenir encore plus, et à l'Europe pour intervenir encore plus en Ukraine, ce qui bien sûr fait monter la tension.
D'accord. Et justement, Calvin, le président Biden a dit que ses déclarations de Poutine sur son potentiel nucléaire prouvent que ses troupes sont en difficulté sur le terrain et que le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré également mercredi, il a réitéré que l'Ukraine peut bel et bien utiliser les armes fournies par les États-Unis pour reconquérir les territoires perdus. Qu'est-ce qui explique cette intransigeance de Washington ?
Je crois que Biden, il se rend compte que cette menace, c'est pas juste pour l'Ukraine ou l'Europe, c'est pour les intérêts américains. Et alors, il a dit au début du conflit, invasion de la Russie, que les États-Unis vont être un leader avec nos alliés en Europe pour terminer cette invasion. Le problème, c'est que ça fait déjà 7 mois. Alors, il dit que ces déclarations sont la preuve qu'il va continuer jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'il n'a pas bien expliqué exactement ce que ça veut dire pour les Américains.
D'accord. Alors, Patrick, l'Ukraine a-t-elle les moyens de résister, voire reprendre les territoires perdus en 2014? On voit avec ces référendums, déjà vendredi, on annonce une grande cérémonie au Kremlin pour justement acter cette annexion de ces territoires.
Oui, alors je crois que cette cérémonie d'annexion parfaitement illégale à la suite d'une parodie de référendum ne fera pas fléchir l'Ukraine. En tout cas, c'est mon opinion. Ces dernières semaines, beaucoup ont été surpris par l'ampleur des succès sur le terrain de la contre-offensive ukrainienne. Elle a révélé tout un tas de qualités des Ukrainiens, hein, leur courage, leur détermination. Ça, on l'avait déjà noté, notamment lors de l'avance des troupes russes sur Kiev. Ils disposent de capacités de renseignement, de capacités de planification. Dans ces deux domaines, effectivement, le soutien des Occidentaux a sans doute joué un rôle important. Et puis on est passé sur un point de bascule un petit peu sur le théâtre des opérations, avec une armée russe qui est désormais sur la défensive et non plus dans l'offensive, même s'il faut rester prudent. Et c'est effectivement cette bascule sur le terrain qui a déclenché la mobilisation russe. Donc les succès ukrainiens du mois de septembre ne doivent surtout pas entraîner un relâchement, une démobilisation de l'aide à l'Ukraine, parce que je crois que c'est celui qui fera le plus preuve de ténacité et de volonté qui finalement, en définitive, l'emportera.
Alors, Jean-François Seznec, l'Inde et la Chine, un autre aspect du conflit, ces deux pays n'ont certes jamais soutenu ouvertement la Russie dans ce conflit, mais n'ont jamais condamné également l'invasion russe. La position de ces deux géants asiatiques a-t-elle évolué dernièrement avec les récentes, entre guillemets, préoccupations exprimées lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai? Elles sont d'ordre économique, ces préoccupations?
Oui, bien sûr, mais enfin, il faut aussi se dire que ces deux pays ont quand même beaucoup d'intérêts et beaucoup de liens avec la Russie, mais pas forcément des liens positifs. Il faut se rappeler que la Chine a une énorme frontière entre la Russie et la Chine elle-même, et que ça fait des générations et des centaines d'années même que la concurrence entre la Chine et la Russie continue. Et la Chine en ce moment profite énormément de la situation et ne va en profiter qu'encore plus, parce que ça leur permet de négocier les prix du pétrole beaucoup plus bas. On a vu que si les Européens et les Américains forcent un prix du pétrole russe encore plus bas qu'à peine au coût de production, la Chine va en profiter pour obtenir beaucoup de pétrole beaucoup moins cher. Donc c'est très bon pour la Chine, c'est aussi bon pour pour l'Inde, bien sûr, parce que l'Inde pourra obtenir beaucoup d'avantages de la Russie pour combattre pour gagner sur le terrain commercial. Et je pense que effectivement, dans un sens, la Chine et l'Inde ne veulent pas que ça dégénère de façon à avoir une crise mondiale, parce que ça, ce serait très mauvais pour tout le monde, pour eux en particulier, mais ils sont très contents d'avoir une crise locale, si vous voulez, qui permet à long terme de détruire un opposant potentiel, la Russie.
Ok, intéressant tout ça. Alors, Calvin, Washington et les Européens, à travers les sanctions, espèrent isoler Moscou, mais l'Inde et la Chine offrent des opportunités, comme là aussi l'a si bien expliqué Jean-François Seznec. Comment, malgré toutes ces craintes,
pour les économies en cas de prolongation du conflit? Comment est-ce que les États-Unis devraient essayer d'avoir quand même la Chine et l'Inde un peu de leur côté?
Oui, parce que comme vous savez, nous avons des autres défis avec la Chine, par exemple, les autres pouvoirs du monde. Alors, il faut balancer un peu les réactions pour cette situation avec l'Ukraine et la Russie, avec nos autres intérêts. Je crois qu'avec les sanctions, pour les Américains, parce qu'ils ne veulent pas des soldats américains sur la terre ukrainienne ou de la Russie. Alors, c'est pour ça que les Américains soutiennent les sanctions, parce que ça, c'est un acte, un effort.
L'opinion américaine n'aurait pas voulu aussi de troupes américaines.
Exactement, parce que depuis les dernières 20 années, on a trop vu ça. Alors, ça va être très intéressant de voir comment Biden va balancer, trouver un équilibre entre les relations qu'il nous faut, surtout économiquement, avec l'Inde, la Chine et cette situation avec l'Ukraine et là aussi.
D'accord. Alors, nous avons quand même quelques commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique que nous voulons lire pour vous. Mamadou Fally Lousek est à Dakar. Il nous dit « La menace de Poutine de recourir à l'arme nucléaire a été sèchement rejetée par Biden. Le seul et unique moyen d'arrêter cette guerre, c'est le retrait des troupes de l'Ukraine. Oumarou Zada au Niger nous dit la seule solution au conflit ukrainien, c'est le dialogue et la levée des sanctions contre la Russie. Et puis Yao Marcelin Kofi à Abidjan écrit le dénouement de ce conflit russo-ukrainien passe d'une part par l'abandon des menaces du président Poutine et d'autre part par l'arrêt du soutien militaire à l'Ukraine par l'Occident afin de privilégier la voie diplomatique. Continuez de réagir sur la page Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
Pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités de notre studio à Paris, Patrick Chevalereau, consultant international spécialiste des questions transatlantiques et de défense européenne sur Skype à Annapolis dans l'état de Maryland, Jean-François Seznec, économiste, analyste politique à Atlantic Council et avec moi ici en studio à Washington, Calvin Dark, chroniqueur, analyste politique, cofondateur de RC Communication. Alors je retourne à Paris, Patrick Chevalereau, comment les Européens voient-ils l'issue de cette crise entre la nécessité de défendre des principes comme le respect de l'intégrité des territoires, mais également ses conséquences, et surtout les conséquences économiques d'une prolongation de la crise?
Oui, on est dans un espèce de nœud gordien, effectivement. Il faut bien voir ce qui est en jeu pour l'Europe. Vous l'avez dit, des principes, c'est des principes et des valeurs. Ce sont les normes internationales, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons et le monde que nous allons léguer aux générations futures. Donc est-ce que nous allons leur léguer une jungle ou est-ce que nous allons leur léguer un monde un tant soit peu organisé? Et puis ce sont aussi et surtout pour les Européens des intérêts de sécurité. Et donc la posture des Européens dans la crise, c'est évidemment quelque chose de déterminant pour l'issue de cette guerre. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que les Russes ont parfaitement identifié. Et c'est là qu'ils vont appuyer pour faire mal. Ils vont essayer de fissurer l'unité des Européens. Alors c'est quelque chose qui est pas nouveau. Hein, c'est quelque chose que le Kremlin fait depuis des années. C'est une stratégie très, très élaborée, soutien à des partis politiques en Europe nationalistes, anti-européens, ingérence dans les processus électoraux, etc. Donc aujourd'hui, ces réseaux, ils sont à l'œuvre et puis ils vont essayer de casser l'unité européenne. Donc il va falloir dans ce contexte que les dirigeants expliquent à leur population tout ça, parce que l'hiver va être dur, effectivement. Il va y avoir des conséquences économiques. On en parle beaucoup dans les médias européens en ce moment. Donc l'Europe joue très gros. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça va être un combat entre les volontés et une affaire de résilience. Voilà.
Alors, effectivement, Jean-François Seznec, la crainte d'une pénurie de gaz durant l'hiver, comme l'a dit Patrick, et les soupçons de sabotage des gazoducs de Nord Stream, mettent-ils un peu les Européens sous pression pour qu'ils assouplissent leur position? Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle tension sur le marché des hydrocarbures s'il n'y a pas d'issue d'ici là?
Mais écoutez, dans un sens, là, on a un avantage, c'est que nous rentrons en récession économique, ce qui veut dire que la demande pour le pétrole et le gaz va diminuer ou a déjà commencé à diminuer, ce qui met un peu moins de pression sur les Européens et sur les Américains, mais sur les Européens en particulier, pour utiliser moins, pour avoir moins de besoin de gaz. Donc, ça, c'est un avantage dans un sens. C'est pas un très bon avantage, mais c'est un avantage qui est pas favorable du tout aux Russes. Et effectivement, il va falloir que les Européens montrent énormément de force à l'intérieur de leur propre pays pour ne pas utiliser le gaz, pour avoir moins, plus froid dans leur maison, etc. Et que les industries vont sans doute ralentir à cause de ça, effectivement. C'est un gros problème. Alors, vous parlez des fuites de gaz qu'il y a dans la mer Baltique. Ça, c'est assez humoristique dans un sens, parce que si c'est la Russie qui est par derrière, c'est la Russie qui en profitera le moins, parce que c'est eux qui vont payer pour le pipeline à long terme. D'un autre côté, c'est très bon pour beaucoup de compagnies américaines qui vendent du gaz et du pétrole et des compagnies de charbon dans West Virginia, par exemple. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il est certain que la pression est sur l'Europe en ce moment. Absolument. Et on va voir comment ça se passe.
D'accord. Et Calvin, les États-Unis soutiennent militairement l'Ukraine, mais est-ce qu'ils ne doivent pas aussi se préparer à soutenir beaucoup plus les besoins du marché européen du pétrole et du gaz pour éviter un effritement du bloc occidental?
Je crois que ça, c'est un des intérêts américains, de soutenir nos alliés, surtout parce que l'hiver, ça vient, et on sait que il faut protéger leur intérêt pour maintenir nos relations. Mais il faut aussi savoir que il y a une limite. Et ça, c'est exactement ce que je me demande. Qu'est-ce que c'est la limite? Surtout parce que les élections de mi-mandat en novembre viennent.
Les progressistes qui ne sont pas très favorables à ce qu'on exploite beaucoup plus le pétrole américain. Et c'est peut-être une question à laquelle Biden devra répondre.
Et ça, c'était une question bien avant l'Ukraine, et c'est aussi un message, par exemple, chez les Républicains pour cette élection, que Biden et les démocrates, ils ont laissé perdre nos intérêts à cause de la manque d'indépendance énergique. Alors, c'est intéressant de voir que ça, c'est une question domestique et aussi une question internationale quand il s'agit de notre réponse à Russie en Ukraine.
D'accord. Alors, Patrick, peut-être ça va être le dernier tour de table. On dit que tous les conflits finissent autour d'une table, mais au vu des positions des uns et des autres, qu'est-ce qui, selon vous, va être déterminant dans la résolution de ce conflit?
Alors, d'abord, je crois que la résolution finale de ce conflit, et notamment le retour de la diplomatie, ça va être aux Ukrainiens de le déterminer. Parce qu'après tout, ce sont les Ukrainiens qui sont les premiers concernés, c'est eux qui ont subi l'agression. Des familles sont divisées, sont endeuillées, ils ont perdu une partie de leur territoire, des villes sont détruites. Donc vraiment, c'est aux Ukrainiens de le déterminer. Ensuite, compte tenu, malheureusement, de la gravité des crimes et de l'ampleur des destructions réalisées par la Russie de Poutine en Ukraine, il est franchement difficile aujourd'hui d'identifier un espace pour cette négociation. Alors, diplomatie, ça ne veut pas dire négociation. Hein. La place pour la diplomatie, finalement, c'est exactement... Je parlais de la déclaration du National Security Advisor, Jack Sullivan, ce week-end. C'est exactement ça, la diplomatie. C'est aussi faire passer des messages et c'est aussi montrer une détermination. Le discours du président Macron à l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est beaucoup tourné vers les pays du Sud, qui les a beaucoup interpellés. C'est ça aussi la diplomatie.
Qui ne semble pas comprendre la position des Occidentaux, c'est bien ça ? Les pays du Sud ne semblent pas trop comprendre la position, beaucoup en tout cas d'entre eux, c'est ça ?
Oui, alors une partie d'entre eux, je dirais, on a parlé tout à l'heure d'une espèce de dualité entre des intérêts conflictuels pour ces pays, mais ces pays doivent se rendre compte aussi que il y a un leg, comme je le disais, en direction des futures générations, et donc il y a un intérêt finalement à un monde stabilisé. Personne ne veut vivre dans le monde que nous prépare aujourd'hui Monsieur Poutine. Donc je ne vois pas personnellement de négociation, de lancement de processus compatible aujourd'hui. D'accord. Avec ce qu'est la nature même du régime russe, vous voyez.
Alors Jean-François Seznec, pour vous, c'est quoi l'issue de ce conflit?
Bon, malheureusement, je ne suis pas très positif parce que j'ai très peur que tout le système dérape et que la force russe, l'effort que fait la Russie pour faire monter la pression peut déraper et forcer les États-Unis à intervenir beaucoup plus fortement, même du point de vue militaire, ce qui bien sûr pourrait faire démarrer une guerre à tout. Et c'est un processus que personne ne veut suivre, personne ne peut faire, mais que tout le monde comprend en fait. Mais il faut se rappeler que la guerre de 14 a démarré comme ça. On pensait vraiment que la guerre de 14 ne se passerait pas, et tout d'un coup ça a explosé et toutes les alliances sont parties les unes contre les autres. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement dangereuse. Il est certain que si les pays importants comme la Chine et l'Inde se mettent ensemble et essayent de vraiment jouer les intermédiaires entre la Russie de M. Poutine et les Occidentaux, là il pourrait peut-être y avoir une résolution. Mais il va falloir vraiment que l'on fasse faire intervenir la Chine diplomatiquement et l'Inde diplomatiquement de façon très forte, et que nous les écoutions, parce que c'est pas forcément qu'on accepte leurs principes.
Et pour vous, Calvin, c'est quoi l'issue du conflit? Comment est-ce que vous le voyez? Va-t-il falloir faire des concessions ou rester droit dans ses bottes, entre guillemets?
Moi, j'essaie d'être toujours optimiste, mais pour cette situation, c'est difficile. Avant les dernières actions de Poutine, je disais qu'une négociation, enfin négocier, serait possible, mais je crois que ça, c'est pas possible, parce que Poutine a montré qu'il n'est pas disposé à négocier avec les pouvoirs. Alors je crois, pour terminer, pour mettre fin à cette agression, cette invasion, il faut les pouvoirs en Europe, l'OTAN et les États-Unis de mettre fin à la situation. Le problème, c'est que ça va être beaucoup plus difficile qu'enfin négocier avec Poutine.
En tout cas, merci beaucoup. Et c'est une situation, en tout cas, que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.